ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Bruno Bonduel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant de la pratique de la méditation zen. Vous êtes moine. Vous êtes co-responsable de l'association Dojo à Toulouse. Vous allez nous en parler. Alors, vous n'êtes pas venu avec une robe de des habits que beaucoup de moines portent habituellement. Et le terme de moine, eh bien, je crois que nous allons le préciser parce que nos amis auditeurs, ils connaissent toutes sortes d'engagements. Soit dans la solitude, soit dans des monastères, pour la quête de la spiritualité. Vous, c'est une méditation particulière qui vient du Japon, méditation zen.
Alors, la méditation zen, effectivement, nous vient du Japon. C'est une pratique du bouddhisme, une branche du bouddhisme pour clarifier, d'abord se connaître soi-même, et ensuite, au-delà de la connaissance de soi-même, pour revenir à ce qui est important, c'est-à-dire la présence à soi-même, comme je viens de dire, et aussi la présence à tout ce qui nous entoure, la présence à la vie. C'est une contemplation de...
De la nature et aussi une recherche de la paix. Alors nous nous étions rencontrés il y a peu de temps autour de Bertrand Puel dans un atelier du groupe de recherche d'éducation et de spiritualité, et c'est l'atelier Société et Spiritualité. Et vous étiez venu nous demander de faire un exercice de méditation. Alors, ce n'est pas la méditation, j'allais dire, transcendantale, comme certains le recherchent. Et vous n'êtes pas non plus dans des monastères comme nos amis juifs connaissent, et ceux qui ont fait l'exégèse de la Bible, le monastère de Qumran, où c'était des ascètes. Vous, vous vivez dans le siècle. Si je cite Max Weber, vous êtes non pas des virtuoses du chant comme en Calcutta, ou alors comme les moines orthodoxes et dans bien d'autres moments. Et aussi, la particularité, c'est que vous êtes mariés. Hein, comme il y a eu, avant le Concile d'Autun, en Irlande, ceux qui connaissent les romans policiers de Sir Fidelma, qui est marié, et le Concile d'Autun a imposé au 7e siècle le célibat des moines. Donc vous avez eu une vie familiale, je veux dire, tout à fait à Toulouse, en tout cas.
Tout à fait, oui, j'ai marié, j'ai 4 enfants, et j'avais un métier, maintenant je suis à la retraite. Alors effectivement, Maître Deshimaru, qui était moine, qui nous venait du Japon, et nous a amené les mêmes règles qu'au Japon. Les moines au Japon sont mariés, peuvent travailler. Et il y tenait particulièrement pour venir en Occident apporter cette pratique du bouddhisme particulière. Il voulait qu'on reste complètement connecté à la vie sociale, la vie familiale, la vie professionnelle. Comme au Japon, les moines peuvent se marier. Et alors, la plupart du temps, au Japon, ils sont responsables d'un temple. Ils sont un peu comme les pasteurs protestants, si vous voulez, une image un peu approximative.
Mais justement, j'allais vous dire, quand Martin Luther ou Calvin ont fait la réforme par rapport à certains abus du Vatican et de l'Église, eh bien, ils se sont engagés dans le siècle, et encore Max Weber parle de l'ascétisme dans le siècle, puisque leur objectif, c'était vraiment d'être en phase avec l'industrialisation naissante. Mais alors, vous, le terme peut-être d'ascète, vous serez pas directement propre.
Non, même si c'est une voie qui parfois est considérée comme abrupte, c'est cette recherche de présence. Alors, il faut voir qu'est-ce que c'est que la méditation. On n'en a pas parlé tout à fait. Aujourd'hui, c'est essayer d'observer son esprit. Et dans cette pratique de la méditation, nous revenons d'abord au corps. C'est très important. On a tendance dans notre vie aujourd'hui à oublier notre corps, à oublier notre respiration. Donc on se recentre, on revient à ce que l'on est. Et en observant également son mental, ça permet de sortir de notre bulle. Puisque, d'ailleurs c'est un point qui est assez important, j'aime bien souligner ce point-là, spiritualité. Spiritualité, c'est un mot qui peut faire appel à l'esprit. Il y a le mot esprit dans spiritualité. Et alors, traditionnellement, il y avait d'un côté tout ce qui est matériel, la matière, et de l'autre tout ce qui est esprit. Donc c'est tout ce qui n'est pas matériel, c'est immatériel. Mais il y a une confusion à ne pas faire. La spiritualité n'est pas le mental, n'est pas l'intellect. Et parce que, enfin tout au moins dans notre pratique, l'intellect et le mental nous enferment. Nous sommes complètement pris, omnubilés au quotidien par nos préoccupations, nos soucis de ce qui s'est fait hier, de ce que nous allons faire demain, de ce que les gens vont penser de nous, de est-ce qu'on va être à la hauteur, de regrets ou de projections vers l'avenir. Et ce faisant, nous ne sommes pas présents. Nous ne sommes pas présents, nous ne sommes pas présents à nous-mêmes, donc nous ne sommes pas présents à l'environnement, nous ne sommes pas présents aux autres. Et ça a amené, parce que c'est surtout l'Occident qui a développé ce prémisse du mental, ça a amené à instrumentaliser tout ce que l'on touche. On instrumentalise l'environnement, on instrumentalise la nature, les entreprises instrumentalisent les hommes, on parle des ressources humaines, c'est un vilain mot. Et ce qui fait que, ce faisant, en instrumentalisant les objets, la consommation, etc., les enfants, on se coupe de notre vraie nature, de vivant, d'être vivant, de notre nature humaine, on se coupe de la nature, et on s'enferme et on s'isole dans nos concepts, dans nos mots, dans nos envies, et dans nos rejets, et ainsi de suite. De la méditation, c'est observer ce phénomène, observer ce qui se passe et revenir au souffle, revenir au corps et, ce faisant, s'ouvrir. S'ouvrir comme une présence. D'ailleurs, cette radio
Radio-présence.
Un nom qui va vraiment très très bien avec notre pratique.
Oui, mais vous m'avez dit que, ma foi, j'y crois, ça reviendra tout à l'heure après la pause, que ce n'est pas tout à fait comme ça que vous entendez la question de la foi ou de la pratique.
Oui, on peut y revenir. Mais là, je parlais du nom de la radio, là, la présence. C'est ça. On revient à une présence à l'instant. Parce que, effectivement, on peut mourir à chaque instant. On peut, dans la minute qui vient, je peux ne plus être là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de vivre comme ça tout le temps dans le passé, dans l'avenir, dans nos regrets, dans nos envies, dans nos frustrations? Alors qu'en revenant à chaque instant, c'est le seul moyen de vivre vraiment pleinement et sans rien remettre au lendemain. Donc c'est le cœur de notre pratique, c'est contemplation, cette attention donnée à l'instant.
C'est d'ailleurs un des poèmes que vous allez lire, nous allons dialoguer tout à l'heure dans la deuxième partie de notre entretien, de l'homme riche et du mendiant qui ont l'un et l'autre un diamant à chercher, qui possèdent une richesse qui leur permet d'avoir le goût de vivre et de ne pas être tout le temps dans la quête. Alors, je crois qu'il y a un terme pour les philosophes d'ataraxie, ou bien pour les courants bouddhistes, ils disent on est dans le fait de ne pas souffrir. Oui, vous avez, je pense, grâce à la méditation, cette recherche du sens de la vie.
Oui, alors c'est vrai qu'au départ, la démarche du Bouddha part de l'observation de la souffrance, ou plus généralement de tout ce qui ne va pas et qui nous empêche de vivre pleinement. Il a observé quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était mourant, et ça l'a profondément interrogé. Vous me demandiez comment j'étais venu à la méditation zen. C'est de la même manière. J'ai traversé des périodes très tumultueuses, très douloureuses, avec des déchirements pour moi-même, mais aussi pour ceux qui m'entouraient. Et le constat très douloureux de voir que cette situation, c'était moi-même qui m'y étais mis. Je m'étais mis dans cette situation de souffrance et j'en étais quelque part le seul responsable et sans d'avoir rien maîtrisé. Comme si j'avais subi. Donc on fait des grandes études, on développe les connaissances intellectuelles, le savoir, et en fait on se trouve comme un petit enfant de 2 ans face à la vie, face à ses émotions, face à la gestion de... Donc là, il y a quelque chose qui n'allait pas, et qui, je me suis dit, il faut revenir, comprendre d'abord ce qui s'est passé, comprendre comment le mental m'a mené par le bout du nez et m'a entraîné sur des voies qui étaient de douleur et aussi se connaître, se poser pour ensuite, à partir de là, et repartir de manière solide.
C'est pour ça que vous nous avez apporté un beau poème avant que nous lisions un conte. Le poème, c'est du maître Dogen, n'est-ce pas, en
Le maître
1250.
Dogen.
Dogen, pardon.
Dogen est un maître zen qui est aussi un philosophe important et reconnu au Japon.
Les vagues meurent sur le rivage, le vent se calme.
Une barque abandonnée dérive sans amarre.
Au milieu de la nuit, la lune, là-haut, dans le ciel. Alors, vous nous aviez demandé de rester en silence, comme lorsque nous avons fait un atelier, et vous demandez plutôt le groupe dans lequel vous méditez est habitué à des longs temps de silence. Bon, à la radio, ce ne sera pas possible. Mais nous allons méditer sur un conte qui s'appelle Le professeur et le maître de thé. L'histoire se passe en fait il y a bien longtemps au Japon.
Un professeur rend visite à un maître zen, connu pour sa profonde sagesse et pour ses cérémonies du thé.
Le maître accueille le professeur, le fait asseoir sur le tatami et commence à préparer le thé.
C'est un rituel où chaque geste compte et doit être effectué avec précision et minutie.
Le professeur demande, en s'inclinant,
Maître, pourriez-vous m'expliquer ce qu'est l'esprit du zen?
le maître ne répond rien, occupé seulement à verser le thé. Il verse, 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 et le bol à thé déborde.
Le professeur s'exclame complètement perturbé.
Mais maître, la tasse déborde.
Et le maître de répondre.
Elle est comme votre esprit, trop pleine.
Commencez par vider votre esprit de vos concepts et de vos analyses pour pouvoir comprendre le zen.
Thank you.
Nous sommes en présence de Bruno Bonduel. Vous êtes moine bouddhiste zen. Vous enseignez la pratique et la méditation zen dans l'association Dojo à Toulouse. Nous venons d'entendre ces notes de musique paisibles qui nous incitent à la méditation. Vous vous regroupez, vous n'êtes pas seul dans cette recherche, comme certains moines anachorètes dans le désert, Antoine et les autres.
Oui, c'est important. C'est important de pratiquer ensemble. Tout d'abord, notre pratique, parfois, est considérée comme un peu difficile quand nous sommes dans le silence, en posture de zazen, c'est-à-dire la méditation assise, pendant 35-40 minutes. Et deux périodes de 35-40 minutes. Et d'être ensemble, on est porté par les autres. On est un peu contraint par les autres, mais on est porté par les autres. Ça permet d'aller plus loin. Ça permet d'aller plus loin que ce qu'on peut faire seul chez soi.
Il y a une ambiance.
Et puis, il y a aussi, quand on pratique seul, on peut se raconter des histoires. On peut s'y croire, on peut se voir déjà. Bon, le fait d'être avec quelqu'un qui dirige la méditation aussi nous ramène et nous force à être juste simplement assis, sans se raconter d'histoire.
Alors, est-ce qu'il y a répétition de mantras ou de phrases, puisque vous dites que vous êtes accompagné?
Non, il y a pendant la méditation, il y a surtout le silence.
Oui, parce que les soufis, ils ont une prière qui est répétitive, ou alors le chapelet, pour ceux qui écoutent à Radio Présence la nuit ou à 15 heures. Donc, ce sont des répétitions de formules qui sont orientées vers un autre, en tout cas, ou une autre. Et vous me dites, la question de la divinité ne se pose pas ou se pose autrement.
Oui, elle ne se pose pas pour nous. Le Bouddha, qui est un homme qui a pratiqué il y a 2500 ans et qui nous a enseigné cette pratique et les enseignements qui y sont associés, était un homme qui a trouvé l'éveil. Bouddha, ça veut dire l'éveillé, et il nous a invités à suivre son chemin. Parce que ce chemin, c'est un chemin, c'est important de dire, de libération justement de ces conditionnements, de ces... Et donc c'est important là aussi de ne pas le faire seul, parce que si vous pratiquez seul, vous suivez vous-même, c'est-à-dire que vous suivez vos propres conditionnements, et donc il devient très difficile de se libérer par soi-même. On utilise des expressions du type le feu ne peut pas éteindre le feu, l'esprit ne peut pas, le mental ne peut pas apaiser le mental. Il faut, donc on s'appuie sur le corps, on s'appuie sur la respiration et on s'appuie aussi sur les autres autour de nous qui nous permettent de maintenir ce cap.
Et vous avez apporté aussi des références bibliographiques qu'il est important d'aborder, ce n'est pas indispensable, mais il y a toute une spiritualité. Alors, oui. Je voulais vous demander aussi s'il y a une initiation avec des degrés, hein, comme dans certains groupes.
Alors, dans notre... Il y a une initiation qui va durer une vingtaine de minutes. On invite les personnes qui veulent venir pratiquer dans notre dojo. Donc le dojo, ça veut dire le lieu de la pratique de la voix. Alors il y a des dojos de judo, le lieu de la pratique de la voix, de la souplesse, des dojos de karaté, et là les dojos de zen. Donc c'est le lieu de la pratique de la méditation zen. Et Donc il y a une initiation par rapport, pour expliquer quelques règles et pour voir avec la personne quelle est la posture la mieux adaptée à sa, à sa corpulence, à ce qu'il est.
Même des handicapés, vous m'avez dit, qui viennent, qui ont la possibilité d'être sur leur fauteuil ou...
Tout à fait, tout à fait. On peut pratiquer assis sur une chaise, mais au préalable, on essaye d'abord. Là, il y a une posture idéale, c'est la posture du lotus. Alors, souvent, des personnes n'arrivent pas à le prendre. Moi-même, je ne suis pas complètement dans la posture du lotus, ça n'est pas très grave. Mais on regarde avec la personne quelle est la meilleure posture possible. C'est important d'avoir une posture qui soit quand même assez solide, qui soit avec le dos bien droit, parce que ça va soutenir l'attention. Il y a un lien tout à fait important, direct, une union entre le corps et l'esprit. Donc on va s'appuyer sur le corps pour observer l'esprit, pour apaiser l'esprit. Mais donc ça n'est pas une posture de relaxation, où à ce moment-là il y a un risque d'aller vers de l'assoupissement, de la somnolence. Donc on va avec la personne regarder quelle est la meilleure posture qui donne à la fois de la tonicité, mais qui permet de relâcher toutes les tensions inutiles.
Et de ne pas penser à trop de sentiments ou à trop de turbulences. Vous avez apporté un autre poème, justement, « Le voleur a tout emporté », dit le poème de Ryokan, un moine ermite de fin 18e. « Il a tout emporté. »
Sauf la lune qui était à ma fenêtre.
Et vous avez un conte aussi pour conclure notre entretien qui se termine bientôt. C'est celui de l'homme riche et du mendiant.
Alors un homme devenu riche retrouve après plusieurs années un de ses amis. Il est surpris de voir que cet ami est devenu un mendiant vêtu d'un manteau rapiécé. Il offre à son ami un bon repas.
Après avoir mangé et bu tout son sou, l'ami s'étend et s'assoupit. L'homme riche doit repartir pour affaires, mais auparavant, il prend bien soin de coudre un diamant de grand prix dans la doublure du manteau de son ami.
Quelque temps plus tard, les deux amis se rencontrent à nouveau. L'homme riche découvre que son ami mène une vie toujours aussi miséreuse. Consterné, il lui parle du diamant qu'il lui avait offert.
L'ami pauvre découvre alors le joyau caché et réalise qu'il possédait depuis tout ce temps un diamant sans prix qui aurait pu lui transformer la vie.
Donc ce conte que je vous ai proposé, c'est pour montrer qu'on a tous en soi cette richesse, mais qu'il faut aller la chercher. Si on ne va pas la chercher, il ne suffit pas de le savoir mentalement, de se dire ou de le comprendre intellectuellement en lisant les livres, cette richesse, ce joyau d'or ou de diamant ne pourra pas le, vous ne pourrez pas le faire apparaître.
C'est pour ça que vous aimez cette phrase, la vie, quelle image en donner?
Celle du reflet de la lune dans la goutte de rosée suspendue au bec de l'oiseau aquatique.
Merci beaucoup de nous avoir apporté ces pensées. Nous pourrions méditer encore longtemps, mais nous allons terminer par cette musique douce qui conclura notre entretien. Merci Bruno et merci à Christophe pour l'enregistrement.